Du lundi au vendredi, entre 8h et 9h sur RFJ, format A3.
Nous vous proposons un voyage dans cette deuxième partie de format A3 au Népal, de Katmandou à Katmandou, en passant par le Mustang et un tremblement de terre. C'est le titre de la conférence que donne Rémi Vimin demain soir au Musée d'art et d'histoire à Delémont.
Alors un voyage, c'est toujours marquant. Il y a ce que l'on imagine, ce que l'on va découvrir sur place, les rencontres souvent riches. Et puis il y a parfois des événements qui peuvent carrément bouleverser le voyage.
Rémi Vimin, bonjour. Vous avez visité cette région deux fois, une fois au printemps 2015 et la seconde fois en septembre 2016. Votre premier but, c'était de visiter les écoles du Mustang. Mais qu'est-ce que vous y recherchiez au fond ?
En fait, c'était pas seulement visiter les écoles du Mustang. Le premier voyage, c'était aussi faire un trek. Moi, j'aime beaucoup la montagne. Et c'était un peu un rêve de pouvoir faire un trek une fois au Népal. Comme j'ai pris une retraite anticipée il y a quelques années et que je suis encore en pleine forme physiquement, je me disais que c'était l'occasion. Et cette occasion a été liée à la présence au Népal d'une amie qui est responsable d'une association qui s'occupe de parrainage scolaire, d'où le lien avec les écoles. Donc j'allais rejoindre cette amie, faire le trek avec elle. Il s'agissait de marcher une vingtaine de jours autour du massif de l'Annapurna, puis ensuite arriver au Mustang, de faire ce travail dans les écoles qui sont soutenues par son association. Voilà, disons, le contexte du premier voyage. Je rajouterai juste une chose encore par rapport à ce que vous avez dit. Il y a eu encore un troisième voyage dont je pourrais parler, donc en automne passé. Et il y en a un quatrième prévu au mois de mai. Donc le Népal est devenu un peu mon deuxième pays, quoi.
Alors c'est vrai. Alors rappelons juste, hein, le Népal qui se situe entre la Chine et l'Inde. Le Mustang, c'est un des royaumes du Népal situé à 2000 mètres d'altitude. En plus, c'est une région qui a souvent été fermée aux étrangers.
Absolument. Elle est ouverte depuis relativement peu de temps. Donc c'était un royaume extrêmement fermé. Je crois qu'il y a 25 ans à peu près qu'elle a commencé à s'ouvrir aux visiteurs étrangers. C'est une vallée qui débouche en fait sur le Tibet voisin. Donc une vallée très marquée aussi par la culture tibétaine, par la culture bouddhiste, et qui est entourée de massifs montagnards absolument magnifiques. D'un côté l'Annapurna qui culmine à plus de 8000 mètres. Et puis de l'autre, le Dholagiri aussi, qui culmine vers, je sais pas, 8200 mètres.
Et puis, lorsque vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous découvrez ? Comment se passe l'accueil ?
Alors, d'abord, il faut y arriver, quoi. C'est... Alors, 20 jours de trek, c'est long, c'est magnifique, mais c'est dur parce que nous sommes dans des altitudes dont on n'a pas l'habitude ici. Il faut passer un col qui est situé à plus de 5400 mètres.
Wow.
La plus longue étape du trek, qui a duré quand même une douzaine d'heures avec ce passage de col dans la neige, une neige assez importante, il avait neigé peu de temps auparavant. Donc, je dirais qu'il faut le mériter, le Mustang. Quand on y arrive, et quand on arrive dans ce qui est la vallée du Mustang, c'est vraiment un aboutissement après quand même quelques efforts assez importants. Alors l'accueil, ben c'est quand même une région relativement touristique maintenant, donc c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu ambigu, c'est un peu paradoxal. À la fois on est très bien accueilli, mais on est aussi entouré de gens qui font la même chose que nous, hein, qui vont aussi là parce que c'est une région attirante, on peut y marcher, mais il y a aussi tous les côtés un peu négatifs du tourisme avec par exemple des populations locales qui abandonnent leurs activités traditionnelles pour ouvrir des guest houses pour les touristes, mais en ouvrir beaucoup trop. Donc beaucoup sont en ruine, sont fermés, et les gens quittent la vallée pour aller à Katmandou, à Pokhara, la plus grande ville voisine, et puis devenir des chômeurs dans ces villes-là. Donc il y a à la fois un très très bel accueil, mais aussi la vision d'un pays où les conditions de vie sont difficiles, où la pauvreté est vraiment très très présente, et en plus souvent dans un climat qui est quand même assez rude.
Et donc sur place, l'un des événements importants, c'est le tremblement de terre du 25 avril 2015.
Voilà, donc là, à l'issue de ce trek, donc, je suis retourné à Katmandou, passé quelques jours dans la ville avant de revenir, et le 25 avril était le jour de mon départ, donc j'attendais dans le... dans le jardin de l'hôtel où je résidais avec cette amie Judith et deux amies népalaises. C'était aux alentours de midi quand la terre s'est mise à trembler. Et puis de manière quand même extrêmement violente, puisque c'était un séisme qui atteignait la magnitude 7-9 sur l'échelle Richter, donc quelque chose d'assez monstrueux. Et puis vécu en direct comme ça, je sais pas comment, enfin si, je sais à peu près comment le dire, mais c'est je sais pas si on peut comprendre ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, quoi. Donc, j'ai une formation de géographe. J'ai toujours été passionné par tout ce qui touche les sciences de la Terre, le volcanisme, tout ce qui touche la géologie. Donc, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui était en train de se passer, pour comprendre aussi la force de ce séisme. Et puis, il a fallu très vite, d'abord, garder son équilibre, parce qu'on est vraiment secoué dans tous les sens.
Puis un peu assimiler ce qui se passe, quoi.
Et puis assimiler ce qui se passe, puis en même temps, accepter qu'il y ait quelque chose d'incontrôlable. On est secoué dans tous les sens. Il y a une espèce de bruit, un peu comme un vombrissement qu'on entend dans les entrailles de la Terre. Et puis, l'impression que ce phénomène vous pénètre d'une certaine manière, quoi, vous rentre en vous. Et c'est extrêmement effrayant. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu... C'est un peu exagéré ce que je vais dire, ça peut paraître outrancier, un peu jouissif, quoi, mais c'est vraiment quelque chose qui est très sensuel, quoi. On le sent, sensuel dans le sens où ça appelle quelque chose dans le corps, quoi. Et puis après je ne sais pas si je l'ai pensé à ce moment-là ou si c'est venu plus tard, mais le sentiment que ce qui s'est passé là, cet événement nous rappelle qu'on fait partie du cosmos. Je veux dire qu'on n'est qu'une petite partie de tout ça, hein, et que la Terre, elle existe aussi presque en tant qu'entité, quoi.
Tout à l'heure, vous parliez de votre attachement pour cette région. Est-ce que ça a accentué encore cet attachement parce qu'il y avait quelque chose de beau et qu'on est en train de se dire, mais ça ne peut pas disparaître. Il y a des rencontres, hein, puisque c'était à la fin de votre périple, il y a tout d'un coup des visages qui vous reviennent à l'esprit. Est-ce que vous pensez que ce tremblement de terre du 25 avril 2015 a accentué justement votre... j'allais presque dire un petit peu cette passion, cet amour pour cette région.
Certainement, oui, mais c'est pas une nuance que je vais vous donner, c'est plus une explication autour de ça. C'est pas seulement un attachement, alors effectivement c'était le cas, mais aussi je dirais une forme de dette. J'ai eu l'impression, quand je suis rentré, donc il m'a fallu un peu de temps quand même pour me remettre de tout ça, j'ai eu le sentiment très fort que je devais quelque chose, quoi, à ce pays. Alors, ça paraît aussi un peu bizarre de dire ça comme ça, mais...
Ce pays qui vous a ouvert les bras pour vous faire découvrir un trésor, voilà.
D'une part, qui m'a montré aussi notre fragilité humaine et puis qui m'a laissé en vie. Parce que moi, je suis parti du Népal. J'ai pu quitter ce pays, bon, après une semaine, mais enfin... J'étais vivant, j'étais en bonne santé, j'avais pas de blessures, j'avais rien qui était cassé en moi ou chez moi. Et j'ai quitté un pays, là j'ai encore le souvenir de la traversée de Katmandou juste après le séisme pour essayer de me rendre à l'aéroport, donc traverser en taxi et d'avoir vu, quoi, les ruines, d'avoir vu des gens blessés, certainement des cadavres en bord de route, donc... C'est des choses qui m'ont vraiment extrêmement marqué. Donc, j'ai eu l'impression que ce pays, quelque part, m'avait laissé survivre, m'avait laissé vivre et que je lui devais quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est un attachement à la fois, vous dites amour d'une certaine manière, mais dette aussi, quoi.